Les portes des prisons, ça s'ouvre toujours. Les portes des cimetières, jamais.
Bien sûr qu'on sait que c'est un serial killer.
Si vous rentrez avec une gueule de flic, vous êtes retapissé tout de suite.
La cavale, en Corse, c'est culturel.
Moi, mon job, c'est d'arrêter les malfaiteurs. Et j'ai fait mon job de poulet.
Arrête tes conneries, tu vois pas, tu vas flinguer quelqu'un sans le vouloir.
On dit d'eux qu'ils sentent la poudre, qu'ils partent tôt et qu'ils rentrent tard. On dit d'elles qu'elles ont de la poigne, qu'elles sont déterminées et qu'elles ne lâchent jamais. Ils et elles sont CRS, agents du renseignement intérieur, enquêteurs, baqueux, nuiteux, en sécurité publique, en unité d'intervention, dans les aéroports ou encore en ambassade. En un mot, ils et elles sont flics. Flics de la République, flics par conviction, flics de devoir. Les flics ne laissent personne indifférent. Parfois controversés, renfermés ou même détestés, ils sont aussi avenants, attachants, voire captivants. Dans ce podcast, vous entendrez des récits hors normes de femmes et d'hommes de passion pour qui être flic, c'est avant tout un état d'esprit. Leur vie n'a rien d'ordinaire et ils vous la racontent dans Flic Stories. Pour ce cinquième épisode, Christophe Molmy est notre invité. Nous sommes devant le bistrot du métro, autrefois dénommé le Peanuts Café, dans le 12e arrondissement de Paris. C'est là que nous allons retrouver Christophe Molmy, parce qu'en 2003, il y a arrêté le célèbre braqueur Antonio Ferrara. Une arrestation musclée, la légende dit même que Christophe Molmy se serait cassé le bras, mais c'est lui qui va nous raconter tout ça. Christophe Molmy, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Alors on est précisément au bistrot du métro, au 102 rue de Bercy. Et il y a 19 ans, Christophe Molmy, le 10 juillet 2003, vous étiez à cette même adresse, mais pour une toute autre raison. Vous y avez arrêté Antonio Ferrara, dit Nino, ou encore le roi de la belle. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Antonio Ferrara?
Antonio Ferrara, c'est un jeune de cité hein, du Val-de-Marne, qui est monté essentiellement sur des affaires de trafic de stupes, qui s'évade à la faveur d'un transfert hospitalier en 98 avec l'aide de copains à lui. Il s'évade avec des bombes lacrymogènes, vous voyez, c'est pas un commando avec des kalachnikovs. Et il est en cavale après.
Ça, c'est sa première cavale.
C'est sa première évasion, sa première cavale, en effet. Et durant sa cavale, petit à petit, il monte en grade, il finit par se rapprocher de certains braqueurs. Et puis, il rencontre certains membres de l'équipe, de l'ancienne équipe Dream Team qui avait tapé à Gentilly. Et puis, il fait ses armes doucement, d'abord en petite main, en roumenais, en proposant des voitures, en étant en second cercle. Et puis petit à petit, il avance, il remplace certains qui ont été interpellés et il prend du galon.
Et sa première cavale, donc, elle date de 1998.
Ouais.
Et en quelle année, vous, Christophe Molmy, vous vous mettez sur l'affaire Ferrara?
Alors en fait, on ne se met pas au début sur l'enquête sur Ferrara. On travaille sur une équipe protéiforme qui tape des fourgons blindés sur toute la France, dont on comprend assez vite, après notamment une attaque à Toulouse en 2001, qu'il s'agit d'une équipe avec des Corses, des Parisiens, dont on pense qu'au début, il ne s'agit que de Corses établis à Paris ou bien des membres de la banlieue sud.
Parce que lui, dans l'équipe que vous décrivez, il a un rôle précis, Ferrara? Parce
non,
qu'on
pas
l'a
vraiment,
présenté un c'est... peu comme un artificier,
non,
c'est une légende ça?
Non, ouais. Je pense que c'est une légende. Alors on lui a sûrement appris à manier les explosifs, mais c'est pas lui qui apprend ça aux Corses ou aux voyous confirmé. Hein, alors il a peut-être posé des cadres, je ne sais pas, sur des attaques, mais c'est pas en soi un artificier. D'ailleurs, il n'était pas le seul, parce que je crois savoir qu'il y en a un qui lui a offert des trous pour le faire sortir de prison.
Il démarre cette cavale en 98, ça dure 4 ans. Et comment vous parvenez à remonter jusqu'à lui? Parce que vous me disiez, on se met pas véritablement sur Ferrara, mais il s'avère que c'est quand même vous qui allez l'arrêter pour la première fois en 2002.
Alors, en fait, on travaille sur cette équipe dont je vous parlais, et on reçoit un tuyau un peu plus tard, qui nous dit qu'il faut s'intéresser à ce garçon qui serait monté sur des fourgons lui aussi, ou peut-être avec eux. Et il faut comprendre qu'à l'époque, on n'avait pas d'équipe mêlée de jeunes de cité et de voyous fichés au grand banditisme, ça n'existait pas. On avait des jeunes de cité qui montaient en grade et petit à petit qui s'installaient dans le grand banditisme. Mais des circuits courts comme ça, ça n'existait pas. Et surtout, mêler plusieurs membres de cité et plusieurs voyous confirmés, ça ne se faisait pas. Personne ne voulait trop y croire. Donc on a commencé à travailler sur lui. Moi, je me rappelle que mon patron m'a filé sa fiche signalétique en le voyant en survêtement, à moitié avec un sourire lorsqu'il rentre en prison avant son évasion de 98. Il n'a pas a priori le profil d'un braqueur qui monte sur des fourgons blindés.
Vous vous rappelez de sa première arrestation, celle du 13 juillet 2002? Vous vous en souvenez? Dans quelles conditions vous l'arrêtez pour la première fois?
Ah oui, alors je m'en souviens tellement qu'en fait je suis pas là moi. Ça a été extrêmement frustrant parce que j'avais récupéré un tuyau m'indiquant qui était sa copine, ça commence comme ça. Et donc on tire les fils, et comme tout le monde, moi je m'investis avec les collègues sur la traque. D'abord on le rate une première fois, et on comprend qu'il part en Espagne. Et alors que je devais partir en vacances à l'étranger, malheureusement je ne pouvais pas annuler avec mon épouse, eh bien, on le voit revenir en France. Et donc, j'apprends son arrestation. Pendant une semaine, j'ai craint qu'il le fasse sans moi. C'est humain, mais qu'il le fasse quand même. Et, quand même, et puis, bah, la seconde semaine, j'étais content pour eux, mais un peu triste de ne pas y être.
Et donc, cette arrestation, elle a lieu, on l'a dit, le 13 juillet 2002. Et puis, Antonio Ferra va être incarcéré à la prison de Fresnes. Et il va y rester jusqu'au 12 mars 2003, qui est le jour de sa deuxième et spectaculaire évasion.
10 hommes très fortement armés ont fait sauter les portes de la prison de Fresnes la nuit dernière pour faire sortir Antonio Ferrara.
Mêlé au crépitement des armes de guerre, monte la clameur des prisonniers réveillés par l'assaut. Une action de guerre avec mitraillage des miradors et charges explosives.
Antonio Ferrara est réputé comme très dangereux. Son évasion intervient 5 jours après celle de Joseph Manconi.
Les policiers soupçonnent Antonio Ferrara, 29 ans, et Joseph Manconi, 37 ans, d'avoir participé à au moins une attaque commune.
Le 12 mars 2003, vers 4h du matin, un commando d'une dizaine d'hommes armés de pistolets, de kalachnikov et même d'un lance-roquettes prend d'assaut la prison de Fresnes pour libérer Antonio Ferrara. Tout est méticuleusement préparé, au point que le jour même, Antonio Ferrara a tout fait pour se retrouver au mitard de la prison, dont l'emplacement est plus propice pour l'assaut que s'apprêtent à mener ses complices. L'attaque est réalisée à grand renfort d'explosifs, elle dure une dizaine de minutes à peine, et Antonio Ferrara est de nouveau dans la nature. Christophe Momy, comment vous apprenez la nouvelle de cette évasion de Ferrara ?
C'est une redite, parce qu'une semaine auparavant, j'avais déjà été réveillé de la même manière pour qu'on m'annonce l'évasion de Joseph Manconi de la prison de Borgo. Manconi, c'était un complice de Ferrara, et on avait eu beaucoup de mal aussi à l'interpeller, donc ça a déjà été un premier coup dur, cette évasion. Et quelques jours auparavant de l'évasion de Ferrara, on avait eu un tuyau nous disant qu'il risquait de s'arracher de Fresnes, et on l'avait dit à la pénitentiaire, qui visiblement n'avait pas fait suivre, et le directeur de la maison d'arrêt, en tout cas lui, n'avait jamais été prévenu. Donc vous imaginez, ça vient une seconde d'évasion, malgré le fait qu'on est prévenu, donc c'est terrible.
Mais qu'est-ce que vous dites, qu'il faut tout recommencer à zéro, que tout est à refaire ?
Sur le coup, il y a un peu d'abattement quand même, parce que cette affaire, encore une fois, s'inscrivait dans une somme de dossiers, donc c'est une grosse affaire sur beaucoup de voyous qui a duré 2 ans et demi en moyenne. Donc beaucoup de travail, et se dire qu'il faut tout recommencer, récupérer et Manconi et Ferrara, c'est énorme. Donc pendant quelques heures, il y a une sorte d'abattement, puis après on se reprend, les gars sont volontaires et on repart.
Et là vous foncez à Fresnes ? Alors, vous allez vite voir...
Sur le moment, oui, je prends la voiture, je vais à Fresnes, et en fait j'arrive par l'extérieur, et je fais le chemin inverse de Ferrara en fait. Je passe par le portail, je rentre dans la cour, et je vais dans la cellule pour voir comment ça s'est passé. C'est terrible, la cellule est dévastée, il y a une fuite d'eau, ça part dans tous les sens, les autres détenus sont hystériques.
Mais à ce moment-là, vous recherchez quoi ? Une ambiance ou déjà de premiers indices pour essayer de le retrouver ?
Non, une ambiance. Alors les indices, non, parce qu'il faut savoir qu'on était co-saisi sur cette affaire avec la BRB de Paris, qui a eu en charge l'enquête à proprement dit sur l'évasion. Donc c'est eux qui ont fait les constatations, qui ont été très lourdes d'ailleurs, et toute l'enquête sur les matons. Nous, on savait qu'on allait être co-saisi sur la traque de Ferrara, et je pense que quelque part, j'avais besoin d'aller voir un peu où ça s'était passé, ce qui s'était passé, pour sentir un peu le...
Et du coup, comment vous retrouvez Ferrara ?
D'abord, on a élargi, on a pris en compte tous les gens qui étaient susceptibles de nous ramener à lui. Sa copine, ses plus proches, etc. Et on a mis un groupe sur chacun, on a mis beaucoup de moyens, et ça a été très méticuleux. Il y a eu aussi un très gros travail de téléphonie, et puis il y a eu aussi un travail d'indic, dont je ne peux pas vous donner tous les contours, mais le tout faisant, ça nous a permis à un moment d'atterrir sur un téléphone portable qui s'est avéré être activé à Saint-Raphaël. À ce moment-là, on sait qu'une semaine environ avant l'interpellation ici au Peanuts, on sait une semaine avant qu'on a enfin de nouveau Ferrara sur les écoutes, qu'on l'avait eu l'année d'avant, et qu'on a un fil à tirer.
Mais comment de Saint-Raphaël, vous arrivez au 102 rue de Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris ?
Ah bah, l'aventure commence déjà par descendre à Saint-Raphaël, on est descendu à une quinzaine, on a passé plusieurs jours sur place à essayer de les retrouver, lui et Ferrara et ceux qui l'accompagnaient, et on les a pas retrouvés en fait. C'est petit, mais on peut facilement se passer à côté dans une petite ville, c'est impressionnant. D'ailleurs, la veille où on est remonté à Paris, les voyous, faisaient une soirée dans un restaurant qui était dos à dos avec un autre resto dans lequel on était.
Et vous n'avez pas réussi à vous
trouver. Et on ne s'est pas vus ni les uns ni les autres, hein. C'est les hasards de la vie. Et donc, il est remonté à Paris parce qu'on a eu une écoute téléphonique où Ami Dakar l'appelait et lui expliquait qu'il avait des papiers pour lui, qu'il devait se retrouver à Paris. Donc, on savait qu'il remontait, donc on est remonté.
Et vous savez que c'était ici, précisément, que le rendez-vous allait avoir lieu ?
Ah non, pas du tout. Alors, la première étape, ça a été de prendre en main Akar, qui devait se faire livrer une voiture au Trocadéro. Akar, qui, entre parenthèses, était lui aussi recherché depuis longtemps.
Oui, lui, c'est un autre complice, pour expliquer aux auditeurs. Il est encore dans le réseau, quoi.
C'est un autre complice, mais qui n'était pas un braqueur, qui était un trafiquant de stupes, qui était copain avec Ferrara, notamment pour les stupes, mais qui n'était pas dans l'équipe des braqueurs. Mais qui, opportunément, était en contact avec lui et devait lui fournir des faux papiers. Donc, on a retrouvé Akar au Trocadéro, parce qu'il devait se faire livrer une Porsche toute neuve, donc c'était facile à voir arriver. Donc, il nous a amené en filature jusqu'à Convention. Là, à Convention, on savait qu'il devait retrouver Ferrara dans un café. Et on s'est posé, il est rentré dans un café en effet, mais on est rentré dedans, c'était un café assez libre d'accès, et il n'y avait pas du tout Ferrara, il y avait un couple dedans qu'on ne connaissait pas. On ne comprenait pas ce qui se passait, ça a piétiné comme ça pendant un quart d'heure environ.
Et là vous êtes dans une sorte de planque en fait, vous observez. Quoi.
Alors on est dans une planque, mais il y a aussi, il faut le savoir, beaucoup de flics qui gravitent au même endroit. Hein, et ça c'est toujours dangereux parce que quand on se rapproche de trop, on peut à un moment être visible. Et donc ça a duré un bon quart d'heure et à un moment il reçoit Akar un coup de téléphone de Ferrara qui lui dit bah, qu'est-ce que tu fais, je t'attends, je suis au café de l'autre côté. Et on comprend là qu'il est dans notre dos dans un café et qu'on l'a pas vu, lui non plus nous a pas vu, mais il nous dira après, j'ai vu beaucoup d'hommes seuls avec des téléphones portables tournés, virés, j'étais pas sûr mais je sentais pas le truc. Et donc Akar sort du café, rejoint le café où se trouve Ferrara. Et au moment où il le rejoint, Ferrara se lève. Moi, je suis de l'autre côté de la rue, je les vois. Ferrara sent quelque chose. Il m'explique après qu'il voit personne en particulier, mais il a de l'instinct, hein, donc il sent quelque chose. Il demande au chauffeur à bois basse de démarrer la moto. Il monte dessus. Akar monte avec eux et ils partent. Et là, on les voit partir par un sens interdit. Alors, ce qu'il faut surtout pas faire dans ce cas-là, c'est courir dans tous les sens, parce qu'il pense nous avoir vus, mais il est pas sûr. C'est ce qui nous a sauvés, d'ailleurs. Et voilà, et ils partent, et là
si vous aviez vous aussi pris le sens interdit, vous étiez détronché, comme on dit, directement, voilà, vous étiez repéré.
C'était surtout ce qu'il fallait pas faire, donc heureusement, tous les collègues étaient très aguerris, personne ne bouge. Et là, on mise tout sur la téléphonie, on avait des collègues qui étaient au bureau, qui font les écoutes en direct et qui travaillent sur les localisations.
C'est vos yeux et vos oreilles en temps réel.
Absolument. Derrière nous, ils travaillent sur la téléphonie, ils captent des écoutes où Akar est jeté vers Austerlitz, et doit les rejoindre après en taxi. Boisbasse va le chercher pour le ramener au café, c'est à ça on le comprend, et ça borne à Bercy, là où on avait déjà fait des surveillances avec des proches de Ferrara. Donc on connaissait un peu le secteur et on savait qu'il y avait 2-3 cafés où ils étaient allés, dont le Peanut. Et donc on arrive là sur la pointe des pieds dans le coin à Bercy, parce qu'on a déjà pris un coup de chaud à Convention, si on en prend un second, pour le peu qu'il soit encore là, là c'est mort, on sait qu'il va tout plier, casser les puces et partir en Espagne ou ailleurs. Donc on arrive vraiment très prudemment, c'est une heure après, hein. On a des piétons qui partent pour fureter un peu, dont moi, et voilà, et je passe devant le Peanut, et on trouve la moto qui est garée devant le Peanut, la moto de Boisbasse et de Ferrara. On sait que la moto est là, on suppose qu'ils sont dans le bar, parce qu'ils sont pas dans les bars autour, mais on voit pas ce qu'il y a dedans, parce que des vitres réfléchissantes nous empêchent de voir.
Vous décidez d'y aller ?
Non, pas tout de suite, parce que si vous voulez, c'est genre de café très petit, si vous rentrez avec une gueule de flic, vous êtes retapissé tout de suite, donc il faut pas faire ça. Donc à un moment, il faut prendre une décision, c'est-à-dire soit on rentre en force pour interpeller, et s'il n'est pas là et qu'il n'y a par exemple que Boisbasse et Akar, et ben on fait au moins Akar qui a recherché mon père Ferrara, où il est là, et tant mieux. Et ben il faut prendre une décision, sachant que si ça sort et que ça monte en moto, on n'arrivera pas à suivre. Donc bah à un moment je me lance et j'y vais, on y va.
Et vous y allez avec des collègues policiers ou vous allez tout seul?
Ah non, j'y vais pas tout seul. D'ailleurs quand vous dites très obligeamment j'ai interpellé, moi j'ai pas interpellé tout seul. On n'interpelle jamais tout seul en PJ, il y en a toujours du monde avec soi. Hein. Heureusement, il y avait beaucoup beaucoup de monde parce qu'il y avait beaucoup de collègues de l'OCRB, il y avait aussi un groupe de la BRB avec nous. Et donc on fait deux groupes, un qui rentre par la porte de gauche et l'autre de droite parce qu'on pouvait rentrer par deux portes simultanément. Le café fait une sorte de U en fait pour ressortir par l'autre porte. Moi je rentre à droite en fait. Et les collègues rentrent à gauche. Et en fait, il est dans le prolongement avec les deux autres de la porte de gauche. Et donc moi, quand je rentre au début, je le vois pas. Lui voit les collègues arriver. Il saute de son tabouret de chaise et il court dans l'autre sens. Et il m'atterrit dessus. Pendant que les deux autres, bah, ils sont figés. Ils sont immédiatement interpellés avec force par les collègues. Donc lui, il m'arrive dessus. Et ça va très très vite. Hein. Donc il y a un échange de coups. Et puis... il est stoppé, puis ensuite les collègues arrivent en renfort très très vite.
La légende dit que vous l'avez frappé tellement fort que vous êtes cassé le bras. Ça c'est vrai ce qu'on raconte ?
Non, pas le bras, le métacarpe. Je me suis cassé un métacarpe.
Il paraît que Antonio Ferrara, qui n'était pas rancunier pour deux sous, vous a dédicacé le plâtre. C'est une anecdote qui est véridique, ça ?
Oui, bah parce qu'en fait, tout le monde est parti au bureau, mais moi, je suis parti tout de suite à l'hôpital parce que j'avais la main qui gonflait. Et ils m'ont plâtré tout de suite. Et quand je suis rentré au bureau, beaucoup de collègues étaient déjà partis. Il restait mon adjoint qui était avec lui. Donc je suis allé les voir. Et quand il m'a vu arriver, je me suis présenté. Il m'a dit, oh, c'est de ma faute, excuse-moi. Il dit, si tu veux, je te le dédicace. Bon, j'ai dit, ouais, vas-y. C'était rigolo.
Et vous a signé votre plâtre.
Oui, il a mis Nino dessus.
Et vous l'avez toujours, ce plâtre ?
Oui, je l'ai gardé. Hein. Mais il n'y a pas que lui qui l'a dédicacé. Hein.
Mais c'est quoi pour vous, ce plâtre ? C'est un souvenir ? C'est un trophée ?
Un trophée, non, c'est un souvenir. J'étais conscient quand même que c'était une affaire qui marquait. Aurait sûrement une carrière, donc on garde toujours quelque chose des dossiers. Quand même.
Christophe Molmy, si on revient un instant sur votre vie et sur les personnes avec qui vous avez travaillé, comme vous dites, vous êtes né à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis, vous grandissez en Ile-de-France, où vous passez votre bac, vous vous inscrivez à la fac de droit dans le Val-de-Marne avec la ferme idée déjà de devenir commissaire de police, vous passez le concours que vous réussissez à l'âge de 25 ans, du premier coup, et vous entrez à l'école nationale supérieure de police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, près de Lyon. On peut pas dire que vous avez perdu de temps. Vous avez toujours voulu devenir flic ?
Bah, étonnamment, oui. Alors, je sais pas, quand j'étais petit, moi, je voyais Broussard à la télé, je fantasmais, je voulais faire comme lui. Broussard, c'est l'ancien chef historique de la BRI qui a interpellé Messrine. Et bon, vous rajoutez à ça d'autres générations, les cascades de Belmondo. On fantasmait le travail de flic, surtout quand on était tout petit. Hein. Et l'idée m'est restée, et donc j'ai fait mes études et le droit pour rentrer dans la police. Alors pas spécialement être commissaire, moi j'ai passé le concours de commissaire, j'ai réussi, autant rentrer commissaire si on peut, mais je voulais surtout être flic. Quoi.
Oui, mais pour travailler sur le banditisme, cette matière-là. Puisque à votre sortie d'école en 1996, donc vous effectuez 2 années de service en sécurité publique, assez classiquement, dans un commissariat du Val-de-Marne, mais votre truc c'est vraiment le banditisme. En 1998, vous êtes affecté numéro 2 de la BRI de Marseille. En 2014, vous changez encore de fonction et là, vous êtes nommé chef de la prestigieuse brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris. Et le 7 janvier 2015, donc quelques mois après votre arrivée à la tête de cette brigade, un attentat est commis à la rédaction de Charlie Hebdo.
Bonsoir à tous. La France frappée, la France blessée, 12 morts, 4 blessés dans un état grave. L'attaque contre Charlie Hebdo est l'attentat le plus meurtrier depuis plus de 50 ans. Parmi les victimes, 4 dessinateurs, Cabu, Volinsky, Charb, Tinius, l'économiste Bernard Maris et 2 policiers, des terroristes lourdement armés qui sont toujours en fuite. Des centaines d'hommes sont à leur trousse.
Le 7 janvier 2015, après l'attentat perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo, Chérif et Saïd Kouachi, les 2 auteurs, sont recherchés par toutes les polices. Quel est, Christophe Molmy, le rôle exactement de la BRI ?
Alors d'abord, si vous me permettez, il faut rappeler que la BRI, historiquement, était avant tout un service de PJ qui lutte contre le banditisme. Donc moi, quand Christian Flech m'avait proposé de prendre ce service, je retournais aux sources. Moi, j'y étais allé essentiellement, l'intervention m'intéressait, mais par devoir. Mais je retournais en banditisme par passion. Donc, lorsqu'on prend cette affaire, on avait senti un peu monter parce que les services de renseignement nous avaient déjà alertés. Il y avait eu quelques prémices. Malheureusement, l'affaire Mera aussi avait ouvert la voie. Et on sentait le truc monter, mais on était encore plus intéressé au quotidien par les affaires de banditisme que de terrorisme. Et le jour de l'attentat de Charlie Hebdo, c'est la rupture, en fait, c'est là où tout change. Donc là, on est pris de court comme tout le monde. Mon directeur m'appelle, il me demande d'y aller immédiatement.
Là, quand il vous appelle, vous êtes à votre bureau au 36 Quai des Orfèvres.
Là, oui, je suis au bureau. Et donc, je me dépêche sur place avec une équipe. Bon, sachant que probablement on servira à rien, hein, puisqu'ils étaient déjà partis, mais on aurait pu imaginer qu'ils se soient réfugiés dans un appart ou un café ou autre.
Auquel cas, c'était dans votre périmètre de compétence. S'ils étaient restés dans Paris, c'était à vous d'intervenir.
Dans Paris, en petite couronne, parce qu'on était compétents aussi. S'ils s'étaient réfugiés dans un endroit armé, il aurait fallu aller les chercher, donc la BRI serait intervenue. Mais quand on part là-bas, il faut reconnaître que ça reste hypothétique, mais il faut quand même y aller. Donc je me rends sur place, je rejoins les enquêteurs qui sont à l'étage. Je reste pas longtemps parce que j'ai pas de plus-value à apporter.
2 jours plus tard, donc le 9 janvier 2015, les frères Kouachi sont localisés dans une imprimerie à Dammartin-en-Goële. Et là, vous, Christophe Molmy, vous êtes aussi à Dammartin, en appui du GIGN qui est lui-même appuyé par le RAID. C'est-à-dire les 3 forces d'intervention du pays sont à Dammartin.
Alors déjà, il faut rappeler qu'avant ça, il y a eu une rocambolesque nuit où on a cherché les Kouachi un peu partout dans les bois. On s'était réparti avec le RAID et le GIGN les territoires. Et on s'est promené partout, cagoulé et armé, pour essayer de les retrouver. C'était une drôle d'aventure, mais on les a pas trouvés. Et donc, tout le monde est rentré le soir chez soi. Et puis le lendemain matin, on avait convenu avec Fauvergue qu'il n'y avait pas lieu forcément de remonter, le GIGN était resté sur place et on n'avait plus de nouvelles. Fauvergue était le chef du raid à l'époque, donc on avait convenu tous les deux que ça ne servait à rien de remonter dans le nord. Le GIGN était resté là-bas et voilà. Et donc moi j'ai un groupe qui était quand même monté le matin au cas où, à qui je demande de redescendre sur Paris, puisqu'on se regroupait sur Paris. Et au moment où il passe sur la nationale à côté de Dammartin-en-Goële, en fait, c'est là où on apprend que les frères Kohachi sont réfugiés dans une usine. Donc c'est complètement incident, on se retrouve à côté. Et donc j'appelle le chef de groupe et je lui demande d'aller vers cet endroit et de se mettre à disposition des gendarmes s'ils ont besoin de nous. C'est ce qu'ils font, mais très vite le GIGN intervient, donc on reste en deuxième rideau. Je rejoins les collègues qui étaient sur place pour rejoindre le préfet de police qui était là-bas. Et aussi Monsieur Boucaud et aussi mon directeur. Et in situ, je réalise très vite qu'on va servir à rien parce que le GIGN a vraiment mis tous les moyens. Le RAID veut participer avec eux. Donc nous, on était là en deuxième rideau. Je ne voyais pas l'intérêt pour être sur la photo. Donc je demande l'autorisation de repartir. Et on repart à Paris où on a quand même une mission parce que tout du long de ces trois jours de cavale, on n'a pas cessé de casser des portes pour la brigade criminelle pour essayer de les retrouver dans la famille ou chez des proches. Et donc on redescend à Paris. C'est là qu'on intervient d'ailleurs chez Koulibaly qui n'est déjà plus chez lui. On intervient dans la famille des Kouachi. Et moi je suis aux portes de Paris fin de matinée, début d'après-midi, en attendant une confirmation d'adresse pour la brigade criminelle. Et mon adjoint est dans le 93 où il est en train de taper un domicile. Et en scannant la radio de la DESPAP, de la sécurité publique, des commissariats, on entend qu'il y a un braquage porte de Vincennes. C'est la première information. Ensuite on nous dit que c'est un braquage probablement avec une Kalachnikov. Donc on tend un peu plus l'oreille. Et des braquages, ça peut arriver. On nous dit que c'est probablement un black qui braque et que c'est une épicerie cachère. Bon, donc là, on se dit que c'est probablement Koulibaly. Et on y va immédiatement, sans rien demander. Et on arrive sur place, en fait, les deux groupes, quasiment simultanément, sur ce grand rond-point à côté de l'hypercachère.
Donc Christophe Mollemy, peu après 13h, ce 9 janvier 2015, Amédi Koulibaly, que vous recherchiez, est arrivé à l'hypercachère, qui est situé à la porte de Vincennes. Et il a effectivement un fusil d'assaut, plusieurs pistolets, des explosifs. Il pénètre dans le magasin où il tue froidement trois personnes avant de prendre les autres clients en otage. Comment on fait face à ce type de situation? Parce que vous savez qu'il est en train de se jouer quelque chose de particulier à Dammartin, qui est l'interpellation, l'arrestation, la neutralisation des frères Kouachi. Et vous, vous êtes dans Paris, à la porte de Vincennes, et vous avez Amédi Koulibaly qui retient plusieurs personnes en otage.
Bon, d'abord, on est poussé par les événements, hein, et puis il y a des mécanismes professionnels, on se tire les uns les autres, qui font qu'on avance quoi, sur ces affaires-là. Malgré tout, lorsque je suis arrivé avec mes collègues à la porte de Vincennes, ça m'a marqué parce qu'il y avait une atmosphère assez étrange parce qu'il n'y avait plus de voitures qui circulaient sur le périph. Les collègues de la sécurité publique avaient fait un glacis assez large, donc il n'y avait presque personne sur des centaines de mètres. Il n'y avait pas un bruit, on entendait presque les oiseaux passer au-dessus. Et il y avait une pesanteur terrible parce qu'il y avait une tension humaine évidente. Donc dès qu'on est arrivé et qu'on a posé pied à terre, on a senti qu'il allait se passer quelque chose de déterminant. C'était palpable, je ne sais pas comment vous le définir, mais on s'est dit que là on était face à quelque chose qui n'était pas du banditisme, qui était quelque chose de majeur et sur laquelle on allait devoir intervenir.
Parce que l'assaut est un assaut à l'hypercachère conjoint BRI Paris RAID. Quel est le rôle exact de la BRI que vous dirigez à ce moment-là?
Vous aviez deux crises en équilibre à Dammartin-en-Goële et à l'hypercachère. Il se trouve que à ce moment-là, en tout cas, les Kouachi ne savent pas qu'il y a quelqu'un au sein de l'imprimerie. Ils n'ont pas connaissance de l'otage qui s'est caché. Donc, ils ne menacent personne, a priori. Et nous, on a 27 personnes, je crois, qui sont retenues
en otage par Amédi Koulibaly.
Le préfet de police charge évidemment la BRI d'intervenir, puisque c'est son unité et qu'on est à Paris. Le ministre déclenche ce qu'on appelle la FIPN, qui est une unité fonctionnelle, hein, qui n'a pas d'existence au quotidien, mais qui permet de regrouper toutes les forces d'intervention quand c'est nécessaire. Donc on se groupe, mais à la base, l'intervention doit être menée par la BRI avec le renfort du RAID. Ça, c'est la théorie, mais ça ne se passe jamais comme prévu, hein, puisque normalement, on aurait dû intervenir en premier, et ensuite, le GIGN à Dammartin-en-Goële. Donc, on a un moment de flottement, puisqu'on demande l'autorisation de principe de passer à l'assaut au préfet de police, qui relaie auprès du ministre, et ça remonte, évidemment, autant que je sache, au Premier ministre, au Président, puisque c'était une crise qui était suivie au plus haut. Donc, il nous faut à peu près trois quarts d'heure avant que le feu vert redescende. Et puis après, il faut se préparer, parce que là, c'était très binaire comme intervention, parce qu'on savait, en effet, qu'il y avait une vingtaine de bâtons de dynamite à l'intérieur. On ne savait pas exactement s'ils étaient armés ou pas, mais on avait demandé aux artificiers qui nous accompagnaient, et ils nous avaient dit, mais si ça saute, il n'y aura plus rien autour. Quoi. Donc, en clair, si on était au près et que ça sautait, tout le monde était soufflé, Ou alors on arrivait à entrer et ça sautait pas et on aurait forcément le dessus sur une personne seule. Donc c'était un peu qui tout double. Alors évidemment c'est une intervention là où on ne joue plus, où tout le monde était volontaire, je le souligne, auprès de la BRI, ils ont été extraordinaires, mais tous les hommes qui allaient y aller sentaient une très forte tension, donc il faut un peu de temps pour se préparer. Et pendant ce temps-là, on a été surpris parce que les Kouachis sont sortis spontanément à l'assaut du GIGN. Alors ils ont été vite neutralisés, mais ça a complètement bouleversé ce qui était prévu.
Parce que ce que vous redoutiez, c'était que Koulibaly apprenne la sortie des Kouachis et que donc il décide de tuer les otages.
Koulibaly avait prévenu, il avait dit « si vous en prenez à mes frères Kouachis, je tuerai les otages ». Donc il fallait d'abord neutraliser Koulibaly et après les Kouachis. Et donc par le fait, l'intervention a été complètement inversée et donc on était prêt, mais on n'était pas à l'instant d'y aller. Et à la radio, on nous a dit vous y allez immédiatement parce que les Kouachis sont en train d'affronter le GIGN. Donc ça s'est précipité. On a fait sauter la porte à l'arrière du magasin, ce qui était prévu.
Donc ça, vous, BRI, vous êtes à l'arrière de l'hypercacher.
Ce qui était prévu, c'est qu'on devait faire sauter la porte, rentrer en masse, rapidement, neutraliser Koulibaly. Et le raid, aidé d'ailleurs d'une autre colonne de la BRI, devait se présenter devant, ouvrir le rideau et faire sortir les otages. Et tout s'est inversé puisque lorsqu'on a fait sauter la porte, on s'est retrouvé devant une palette en fait qui bloquait, dont on n'avait pas connaissance. Et on a pu rentrer, mais doucement, très lentement. Et on a immédiatement été pris sous le feu, les premières colonnes ont été pris sous le feu de Koulibaly. Quand le raid s'est présenté une minute trente après devant et a levé le rideau avec l'autre équipe de la BRI, eh bien, au lieu d'avoir les otages qui sortaient, ils se sont trouvés face à Koulibaly qui faisait un peu le yo-yo entre nous et eux. Alors, ça a duré quelques secondes, et puis à un moment, bon, je pense qu'il a dû se dire qu'il pouvait pas passer de notre côté parce que c'était un goulot d'étranglement. Il s'est jeté sur les collègues du raid devant, qui l'ont abattu, et ça s'est terminé comme ça.
Cette année-là, l'année 2015, la BRI va être à nouveau sollicitée pour une opération contre-terroriste. Ce sera au Bataclan, et nous allons en parler dans un autre lieu que vous avez choisi, Christophe Momy, pour cette interview. C'est une librairie, la librairie L'Instant, dans le 15e arrondissement de Paris. On y va ?
Allez.
Christophe Olmy, nous sommes dans la librairie L'Instant, dans le 15e arrondissement de Paris. Et si nous sommes dans cette librairie, c'est parce que vous n'êtes pas seulement flic, vous êtes aussi écrivain. Vous écrivez des polars. Et le dernier, La Fosse aux âmes, raconte l'histoire de Fabrice, un jeune homme ordinaire qui perd sa compagne lors d'un attentat djihadiste commis dans un cinéma. Et forcément, quand on lit le premier chapitre de votre polar, avec cette scène de fusillade dans le cinéma, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015.
La première attaque a eu lieu dans la salle de spectacle du Bataclan, dans le 11e arrondissement de Paris. Une fusillade a éclaté, une prise d'otage est en cours.
À terre, on distingue des spectateurs touchés par balles. D'autres tentent de fuir par les fenêtres. En contrebas, des survivants traînent à même le sol des blessés pour les mettre à l'abri.
Pourquoi avoir voulu écrire ou réécrire cette scène d'horreur dans votre roman?
Je pense que c'est commun à beaucoup d'auteurs. Lorsqu'on écrit, c'est toujours un peu cathartique. On livre quelque chose de soi. Moi, j'avais pas envie de faire un témoignage personnel, surtout pas. Mais j'imagine que j'avais besoin de sortir des choses. Donc, une fiction, c'est à propos pour ça. Donc, j'avais certainement besoin. C'était pas si conscient que ça, mais j'avais besoin d'expulser certaines choses. Et puis d'avoir un héros qui survivait. Alors c'est un peu naïf, mais considérant tous ceux qui malheureusement ont été tués durant les attentats, d'avoir un héros qui survit, c'était quelque chose pour moi d'assez positif. Voilà, j'ai commencé par ça, et puis après, il fallait faire une histoire, donc j'ai brodé autour de ça.
Votre héros, donc Fabrice, survit, mais il y perd sa compagne et le frère de sa compagne.
C'est un roman noir, ouais. C'est un roman noir, et le contexte s'y prêtait. Mais oui, en effet, il est marqué par l'attentat, mais en même temps, c'est un livre, je ne déflorerai pas tout le livre, mais c'est aussi une belle histoire d'amour, parce qu'il a un instinct de vie derrière ce qu'il subit, et il tombe amoureux d'une femme qui le tire de toute cette noirceur.
Et si on parle de ce roman, c'est aussi parce qu'on parle de ce premier chapitre de cet attentat, et forcément, c'est une entrée en matière pour qu'on évoque ensemble l'attentat au Bataclan, c'est cette nuit du 13 au 14 novembre 2015. Ma toute première question, ou celle que je voulais vous poser, c'est le vendredi 13 novembre 2015, qui est peut-être un vendredi ordinaire pour beaucoup de gens avant que ça ne bascule dans l'horreur.
À quoi ressemble votre journée à vous, Christophe Molmy ?
Bien, en réalité, c'était une fin de semaine, comme vous le soulignez, et une semaine durant laquelle on avait beaucoup travaillé à la BRI sur un enlèvement avec demande de rançon, un vrai enlèvement avec demande de rançon, qui s'était soldé par l'interpellation d'une partie des preneurs d'otages sur une remise de rançon. Ça s'était fini, pas le vendredi, mais la veille. Et donc le vendredi, on était en descente, en quelque sorte, on se reposait un peu de cette semaine-là, et tout le monde était fatigué, et puis moi, c'est pas mon cas, mais beaucoup étaient devant la télé pour regarder le football, donc c'était
vous
c'était
étiez
un moment...
pas chez vous?
Si, j'étais chez moi, comme tout le monde, j'étais chez moi, c'était un moment de famille pour l'essentiel d'entre nous. J'étais à la maison avec mes enfants et ma femme. Et
comment vous apprenez qu'il se passe quelque chose de grave?
Quand vous êtes à la BRI, vous êtes en interaction avec beaucoup d'autres services, que la préfecture de police, c'est un tissu de d'un certain nombre de services, notamment la sécurité publique, les démineurs, et voilà. Et ça commence par des échos à quelques minutes de décalage de ce qui se passe au Stade de France. On apprend très très vite, quelques minutes après, moi j'apprends qu'il y a eu une première explosion au Stade de France. Bon, une explosion, ça peut être un incident, ça peut être une bonbonne de gaz dans un feu de troc qui explose. Il faut savoir garder son sang-froid, surtout que cette année 2015, il y a les attentats dont on a parlé, mais il y a eu aussi beaucoup de fake, de faux attentats, de fausses affaires.
Oui, des fausses alertes.
On n'a pas arrêté de sauter dans tous les sens, donc il faut quand même rester serein. Donc quelques minutes après, on a la seconde explosion. Bon, deux explosions au même endroit, c'est plus un accident, c'est un attentat, on le savait. Mais c'était un attentat à la bombe, il n'y avait pas de prise d'otage, il n'y avait visiblement, il semblait pas qu'il y ait de terroristes sur place. Et puis le 93, pour l'intervention, c'est le domaine du raid, donc on n'avait pas nécessairement à y aller. Hein. On était très tendus, mais on n'avait pas de raison de se mettre en branle à ce moment-là. Donc on a rappelé l'alerte, moi j'ai rappelé mon alerte. La FIR, la force d'intervention rapide, qui est la première lame qui va sur les interventions, parce qu'ils rentrent chez eux avec les armes et le matériel pour pas repasser au service. Ce qui est mon cas d'ailleurs cette semaine-là, parce que j'étais de permanence. Et puis on prévient tout le monde en disant attention, restez dans les starting blocks parce que ça peut
oui,
monter.
Là on est un peu avant 22h.
Voilà.
Et à quel moment vous apprenez qu'il se passe quelque chose sur les terrasses?
En fait, moi je suis prévenu par un journaliste qui m'envoie un SMS en me disant est-ce que tu es au courant des tirs dans Paris? Donc je lui ai pas répondu parce que j'avais pas le temps, mais dès ce moment-là, j'ai rappelé l'état-major qui me dit, moi j'allais vous appeler, en effet, il y a des tirs dans Paris, donc je rappelle tout le monde et c'est parti.
Vous partez où? Parce que vous partez peut-être pas tout de suite au Bataclan.
On sait pas où aller à ce moment-là, parce qu'il faut se souvenir qu'en 33 minutes, il y a eu 8 attentats à Paris, entre le Stade de France et Paris.
Les terrasses et le Bataclan.
L'ensemble des attentats, c'est 8 attentats en 33 minutes. Donc les états-majors étaient un peu perdus, on savait plus où aller. Donc en fait... Le 36 étant resté au cœur de Paris, au 36 historique et en plein centre, on peut aller n'importe où dans le même temps. Donc on s'est dit on va aller là, parce qu'on sera près de tout. Et puis comme on nous parlait de terroristes possiblement avec des ceintures explosives, dans la foulée on a convenu que c'était bien de récupérer un peu plus de matériel, notamment des boucliers, un peu plus d'armement. Donc on s'est retrouvé la première équipe là-bas.
Là-bas vous dites au 36 qui est des orfèvres.
À la BRI, au siège de la BRI, on est resté que quelques minutes, hein. Le temps de prendre un peu de matériel. On m'a d'abord appelé pour me dire d'aller sur une des terrasses. On m'a dit va rue de Charonne parce qu'il y aura peut-être un terroriste qui est caché dans un appartement, mais c'était très vague. Et on a à peine eu le temps de monter dans les voitures, on m'a appelé tout de suite en me disant « Non, 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 tu vas au Bataclan, c'est là que ça se passe. » Et donc on a ripé sur le Bataclan immédiatement, on est arrivé vers 22h20.
Mais quand vous arrivez à 22h20 au Bataclan, vous avez objectivement peu d'informations sur ce qui s'y passe. Qu'est-ce que vous savez à ce moment-là?
Ah bah pas grand-chose, hein. On met pied à terre, une partie de l'équipe va immédiatement devant le Bataclan pour figer les lieux. Moi je me rends vers les autorités, il y a mon directeur, il y a le préfet qui est là, le patron de la DESPAP, de la sécurité publique, pour faire le point, pour savoir ce qui se passe, pour faire un état des lieux, savoir où sont les forces, si les rues sont bloquées. Il faut prendre un peu la mesure de ce qui se passe à l'extérieur avant d'envisager l'intérieur, et puis d'avoir les premières informations. Donc je rencontre aussi le collègue de la BAC Nuit qui est intervenu en tout premier lieu.
Qui est rentré dans le Bataclan et qui a neutralisé un des trois terroristes.
Lui et son chauffeur, oui, ils sont rentrés très bien avant nous, hein, et peut-être 10 minutes avant nous à peu près.
Mais vous ne savez pas que les terroristes sont trois? Vous le
non.
savez,
non,
vous savez
non,
pas,
non,
vous
non,
savez
non.
juste qu'ils en ont touché un.
Non, eux nous disent, on est rentré, on a été face à un terroriste, ils nous parlent d'un seul, qui est venu vers nous, échange de feu, le terroriste tombe et se fait sauter. Voilà, on a ça. On se présente devant le Bataclan et il n'y a pas de bruit dedans, personne ne bouge, parce qu'ils sont tous terrorisés parce qu'ils venaient de vivre auparavant, mais on ignorait tout à ce moment-là. Et on n'a absolument aucune indication sur le fait qu'il y en ait deux autres et où ils se trouvent. Donc pendant une heure environ, on s'est attaché à vérifier qu'il n'y ait pas de danger explosif, ça aurait pu être le cas, parce qu'il y a souvent du surattentat, notamment les militaires nous avaient prévenu qu'en Syrie il y avait du surattentat.
Oui, ce qu'on appelle un surattentat, c'est si un deuxième attentat est commis quand vous arrivez contre vous. En fait.
Contre les forces de secours, contre les pompiers, contre les SAMU, en général, c'est un deuxième attentat assez fourbe qui fauche les gens qui viennent en secours du premier. Et donc, il fallait vérifier ça, et puis qu'il n'y ait pas d'autres terroristes cachés. Le rez-de-chaussée, en plus, était difficile à appréhender parce qu'il était ceinturé par des balcons de toutes parts. Et donc, vous êtes vite exposé si vous êtes en partie basse, si un terroriste se trouve à l'étage. Et donc, tout ça, ça a pris un quart d'heure, 20 minutes en bas. Ça paraît long, mais il a fallu aussi sortir des centaines de personnes, les rassurer, vérifier tout ça. Et vers 23h environ, le temps de récupérer le reste de la BRI qui nous avait rejoint, on a décidé de monter à l'étage, alors qu'à ce moment-là encore, on n'avait aucune indication sur l'endroit où se trouvaient les terroristes et si encore ils étaient là.
Et à quel moment vous savez que les terroristes sont finalement plus qu'au nombre de deux avec 12 otages ?
Ah mais beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'à 23h, on monte dans les étages, on fait deux groupes qui prend de gauche et de droite pour ceinturer de chaque côté. Et donc je vais à gauche, mon adjoint va à droite avec les collègues, et on progresse, les collègues en tête, pour vérifier qu'encore une fois, il n'y ait pas d'engin explose ni de terroriste. Alors c'est très difficile, parce que imaginez qu'à chaque fois qu'on avance, on tombe soit sur des gens qui sont pressés de sortir, mais qui peuvent être des menaces parce qu'ils arrivent trop vite, des gens catatoniques, terrorisés, qu'il faut aider à se relever, il y a des endroits extrêmement exigus, puis on a des choses extraordinaires. Moi je me rappelle avoir ouvert une porte de toilette, et il y avait 4-5 personnes entassées dedans, on en a vu descendre des faux plafonds, enfin bon, c'était apocalyptique, donc tout ça, il faut le gérer. Il faut prendre du temps, il faut être prudent aussi parce qu'on peut, contre toute attente, se retrouver face à un terroriste. Et à 23h15, le premier de colonne essaye d'ouvrir une porte qui donne dans les loges derrière. Et là, il entend une voix derrière d'un des otages qui lui demande de ne pas rentrer parce que les terroristes sont derrière avec une douzaine d'otages.
Ouais, donc là, vous avez compris que c'était un peu le dernier îlot de résistance, quelque part. C'est là où il y avait les deux terroristes avec les 12 otages.
Brutalement, à 23h15, on comprend que oui, il reste deux terroristes et qu'ils sont avec des otages derrière la porte. Mais c'est seulement à ce moment-là qu'on comprend.
Et là, on a le temps de mener une négociation. On négocie vraiment, on établit un contact.
Mais, si vous voulez, j'ai tout entendu là-dessus, mais raisonnablement, on ne peut pas se priver d'une négociation. Imaginez que sur une situation pareille, on passe immédiatement à l'assaut sans réfléchir, que ça se passe mal, qu'il y ait des otages de tuer, les familles nécessairement nous reprocheraient de ne pas avoir essayé de négocier, c'est normal. Bien sûr qu'on était conscient qu'il y avait peu de chances, voire quasiment pas de chances qu'ils se rendent. D'abord, c'est nécessaire, et puis c'est dans l'ordre des choses. Et puis, le fait de faire une négociation nous permet à nous de nous préparer, oui, nous faire gagner du temps, et puis on gratte toujours un peu d'informations qui nous enrichit pour savoir exactement ce à quoi on va être confronté. Mais ça va très vite, hein, parce que, comme je vous le disais, on arrive devant cette porte à 23h15 et je lance l'assaut à minuit 18, donc une heure après. Une heure, le temps de se préparer, d'obtenir les validations politiques et de constituer la colonne et d'y aller, c'est très 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 court.
Parce que cet assaut a été mené, Christophe Mamie, dans un couloir d'une dizaine de mètres à peine. C'est un assaut qui techniquement est très difficile, peut-être un des plus difficiles qu'une unité d'intervention de police ou de gendarmerie ait eu à conduire, avec des risques du coup, très élevés de perte de vie des otages, mais aussi des policiers qui interviennent. Et il se dit qu'avant l'assaut, vous auriez, j'emploie le conditionnel, réuni vos hommes et que vous leur auriez dit que si certains ne se sentaient pas d'y aller, ils étaient libres de ne pas le faire.
Non,
vous avez vraiment fait ça ?
Oui, mais oui et non, c'est pas tout à fait ça. Je suis d'abord sorti de la colonne pour aller voir le préfet de police, Michel Cadeau, pour lui demander l'autorisation d'aller à l'assaut. Et très courageusement, je trouve, il m'a immédiatement demandé d'y aller. Et je suis retourné dans la colonne. Là, c'est le rôle des officiers de constituer le groupe d'assaut, ce qui a commencé à être fait, et les choses se sont engagées. Et puis, le temps qu'ils fassent tout ça, je les ai laissés travailler. J'ai eu besoin, à un moment, je reconnais, d'avoir la totale certitude de l'adhésion des hommes, parce que derrière, comme vous l'avez souligné, il y avait un risque létal extrêmement fort, et c'est une grosse responsabilité. Donc, j'ai rappelé uniquement les chefs de groupe et mon adjoint. Donc, on était un tout petit nombre, on était 4-5. Et je leur ai dit, bon les gars, vous êtes sûrs, vous êtes d'accord? Et ils m'ont dit, oui, évidemment, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut y aller. Je pense que j'avais besoin de ça, de toute façon, au-delà du rôle hiérarchique et le fait de donner des ordres, et les gars, évidemment, ils y allaient, mais on dépassait ça, et humainement, il y avait besoin quand même d'avoir une communauté d'esprit, et tous d'accord, et de tous assimiler le risque et de l'accepter.
Donc tout le monde y est allé.
Tous ceux qui devaient être dans la colonne y sont allés, tout le monde était volontaire en tout cas, c'est le rôle des officiers de monter la colonne, mais ils ont eu à choisir parmi que des volontaires, autant je me souviens, et ils ont mis les plus expérimentés devant, donc l'essentiel avait déjà participé à l'assaut de l'hypercachère.
Vous évoquiez tout à l'heure le préfet de police de Paris de cette époque, Michel Cadeau. Il y a un échange entre vous où il vous dit Est-ce que ça va aller? Et vous lui répondez, non, monsieur, ça ne va pas aller, c'est quelque chose de cet ordre-là, cet échange?
Oui, alors ça vient en deux temps, si vous voulez. Vous avez un premier échange, qui est un échange, je dirais, administratif, où moi, je suis sous son autorité, je lui demande l'autorisation de passer à l'assaut. Il me dit, allez-y. Et je me tourne, et je vais pour partir, et là, je pense qu'il y a l'homme derrière, et c'est quelqu'un d'extrêmement humain, Michel Cadeau, moi, j'ai beaucoup apprécié, et qui, en fait, me retient par le bras, et là, il a changé de posture, il est vraiment dans toute son humanité, et il me demande, mais Christophe, vous pensez que ça va aller? Moi, j'ai pas lieu de lui mentir, il faut qu'il comprenne, donc je lui dis, non, monsieur, ça va pas aller. De la manière dont se présentent les choses, avec de l'explosif, un couloir, des armes de guerre, et des otages au milieu, tout se présente mal, donc attendez-vous à ce qu'il y ait un fort risque d'otages de toucher, ou même de collègues. Mais c'est toujours mieux que de les laisser tuer tous les otages. Et là, il a rien dit, il s'est assombri, il m'a dit bon, bah, allez-y. Mais je pense que c'était extrêmement lourd pour lui. Il faut comprendre que lui, il assumait toute la décision administrative. Et puis moralement aussi, humainement, c'était très difficile.
Mais justement, là, après, vous vous retournez, vous emmenez vos hommes et vous y allez. Et dans ces minutes qui vous séparent du moment de l'assaut, à quoi vous pensez, si vous pensez à quelque chose? Vous êtes concentré sur l'assaut? Vous pensez à votre famille? Vous pensez à quoi?
Non, on est pris par des réflexes professionnels. Et puis dans une colonne, vous êtes tiré par devant, poussé par l'arrière. C'est un groupe, hein. Il n'y a pas d'individualité. Donc chacun fait son boulot et puis ça va très très vite. Hein. Je vous dis, il s'est passé très peu de temps entre le moment où on trouve cette porte et on passe à l'assaut. Donc on n'a pas vraiment le temps de se poser et de se poser trop de questions. Donc on y va.
Mais justement, à 0h18... cet assaut, vous le menez et vous sauvez l'intégralité des otages. Vous les ramenez tous, d'une certaine façon. Est-ce que vous avez conscience que vous avez accompli un exploit?
Bon, alors d'abord, je ne mène pas l'assaut. C'est l'officier chef de colonne qui mène l'assaut. Et moi, je les accompagne parce que moralement, je me devais d'être avec eux, mais j'étais plutôt à l'arrière et ce n'est pas moi qui mène l'assaut. Moi, je l'assume, je le décide, je le présente aux politiques et je donne le top pour y aller. Et une fois que le top est lancé, c'est le travail des collaborateurs. Encore une fois, tout va très vite parce que on est engagé au feu tout de suite. Dès que la porte est poussée, le premier de colonne se fait tirer dessus. Il prend un chargeur complet de Kalachnikov dans le bouclier. Son bouclier tombe, on avance. Et puis, on a rapidement eu des grenades jetées. Donc, il y a beaucoup de bruit, de la poussière. Et surtout, les collègues qui étaient au plus près devant relevaient les otages et les passaient à celui de derrière. Donc, on avait fait une sorte de chaîne humaine qui permettait de tirer les otages à l'arrière. Donc, tout ça est rythmé et on est pris par l'intervention. Mon souvenir le plus difficile, c'est pas le collègue qui était devant moi, mais l'autre encore devant. À un moment, je le vois tomber et je comprends qu'il a été touché, mais vous n'avez pas le temps de vous arrêter dans ce moment-là.
Vous ne savez pas ce qui lui est arrivé, en fait.
Je ne sais pas, mais au fond de moi, je me souviens avoir eu cette peur de me dire, mais ça y est, j'ai un mort, quoi. Et ça, c'est affreux, quoi. Bon, fort heureusement, il n'est pas mort. Il a été gravement blessé à la main, mais il n'est heureusement pas mort. Mais c'est un moment qui m'a marqué. Puis après, les choses vont encore une fois très, très vite.
En fait, si je vous ai demandé si vous aviez le sentiment d'avoir accompli un exploit, c'est parce que cet assaut est regardé par le monde entier. Et parmi ceux qui regardent cet assaut, il y a aussi nécessairement les unités d'intervention des autres pays. Et quand ils regardent ce que vous avez fait, ils se demandent comment vous avez réussi à le faire.
Tout ça, c'est un cocktail que je ne pourrais pas démêler aujourd'hui. D'abord, tout ne doit pas qu'à la chance. Hein. Il y a l'entraînement, la qualité, l'expérience des collègues qui étaient notamment dans la colonne, qui avaient tous un très fort aguerrissement et beaucoup de courage. Et puis aussi, vous avez des paramètres que vous ne gérez plus après. Hein. C'est le moment où ça se passe, le comportement des otages, le comportement du terroriste. Je dirais qu'il faut beaucoup d'entraînement, beaucoup de courage et puis pas mal de chance aussi. Et on a eu de la chance ce soir-là.
L'attentat au Bataclan vous touche, Christophe Molmy, d'autant plus personnellement que vous y avez perdu un ami très proche. Savoir que cet ami était dans la salle au moment où vous deviez intervenir, ça a changé quelque chose dans votre état d'esprit?
Non, mais je ne l'ai pas su d'abord. J'en ai quasiment jamais parlé de ça, mais je ne l'ai pas su. Je l'ai su après l'assaut, parce qu'après l'assaut, son épouse le cherchait. Donc très vite, j'ai été prévenu qu'il était présent. On a d'abord pensé qu'il était sorti avec les autres otages, mais qu'il avait peut-être perdu son portable. Et puis après, j'ai été pris par d'autres choses. Et voilà. Et puis à un moment, devant le désarroi de son épouse, il a bien fallu chercher et vérifier qu'il n'était pas mort. Et je l'ai retrouvé. Quoi, ouais.
Cet ami, on peut le dire, il est prénommé Fabrice, comme le héros ou le personnage principal, on va dire, de votre roman La Fosse aux âmes. Il y avait un côté thérapie dans l'écriture de ce livre ?
Bah, thérapie, je sais pas, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'affection là-dedans, oui, bien sûr. Je disais, il fallait, pour moi, et j'avais besoin d'écrire quelque chose là-dessus, ça m'a marqué, hein, humainement, et bien évidemment. C'était un ami, et un ami de 40 ans, c'était pas un ami de la veille. J'avais besoin d'écrire un truc dans lequel ils survivent, quoi.
Dans ce polar, dans ce roman, Fabrice, donc ce personnage principal, il culpabilise d'avoir survécu à l'attentat dans le cinéma. Il y a même une scène au début du roman où vous le décrivez comme se sentant lâche et il va aller même le dire devant tout le monde, au pupitre de l'église, lors des obsèques de sa compagne, donc qui est morte dans l'attentat que vous décrivez dans le premier chapitre de votre livre. Est-ce que vous avez culpabilisé Christophe Molmy après le 13 novembre 2015 ?
Bah, lui, ce que je décris, c'est pas moi. Hein. Mais malgré tout, le fait est que quand vous perdez quelqu'un sur des circonstances pareilles et que vous survivez, il y a toujours une forme de culpabilité. Vous avez toujours à un moment le réflexe de vous dire « Mais pourquoi lui et pas moi ?» Enfin, et puis c'est quand même... vous conviendrez que pour le coup, vous faites ça dans un film, personne n'y croit. Quoi. C'était quand même un coup du hasard qui était quand même assez farceur. Donc... C'était pas simple à gérer, donc je pense que quelque part ça m'a aidé de l'écrire. Ouais.
Alors à la brigade de recherche et d'intervention, il y a nécessairement un avant et un après le Bataclan. Ça a changé quoi pour les membres de cette unité que vous avez commandé avant et après le Bataclan ?
Bah, je pense que ça marquera durablement le service, c'est normal, puisque auparavant je dirais que c'était un service de police judiciaire qui faisait de l'intervention. Aujourd'hui, c'est à la fois un service de police judiciaire, mais c'est aussi, de manière entière et plénière, un groupe d'intervention. Donc ça nous a obligés après à nous perfectionner sur des matières où on n'avait pas investi, comme la protection aux attaques chimiques, s'affûter sur des domaines beaucoup plus pointus. Et tout ça, ça prend du temps, ça demande de l'entraînement, c'est autant de temps où vous ne faites pas forcément de judiciaire. Donc ça nous a obligés à revoir un peu la méthodologie, l'organisation du service, même s'il y a eu beaucoup de recrutement. Mais ça marque le service, bien évidemment. Oui.
Et professionnellement, ça a changé quoi pour vous ?
Je ne sais pas si ça a changé. Je ne crois pas que ça ait changé grand-chose professionnellement. Après, ça nous a tous changé, je pense, humainement. Vous pouvez pas, on peut pas décemment. Je pense pas que certains aient été traumatisés je suis même convaincu par l'opération, mais on a tous été marqués. Vous sortez pas d'une salle de spectacle avec 90 personnes mortes par terre sans être marqués.
Après avoir dirigé la brigade de recherche et d'intervention, vous avez pris plus récemment la direction de la brigade des mineurs. Et alors, vous ne traquez ni le grand banditisme, ni les terroristes, mais un autre type de criminels qui sont les criminels sexuels, et notamment les pédophiles. Est-ce que ça a changé votre regard sur la criminalité ?
Bah, c'est une autre criminalité. Ce sont d'autres crimes et d'autres victimes. C'est un autre monde. Hein. C'est sûr qu'on ne casse pas des portes avec des béliers le matin. C'est un service où on a une majorité de jeunes femmes, avec une ambiance qui est complètement différente. Mais où les enquêteurs sont extrêmement investis, avec, je le soulignais, ils disent souvent, alors il y a des victimes dans beaucoup de crimes, mais ils disent souvent, là, il y a des vraies victimes, c'est surtout parce qu'on voit des enfants, c'est touchant de voir des enfants victimes, donc c'est un métier un peu différent des autres affaires criminelles, ou de stup, ou de banditisme, mais qui requiert beaucoup de professionnalisme et d'attention, et je trouve qu'ils font un travail admirable.
Parce que les polars que vous écrivez, parce que la fosse aux âmes n'est pas le premier, je crois que c'est le quatrième.
C'est le quatrième,
si je ne dis pas de bêtises, sont profondément humains, mais aussi sombres. Vous avez une écriture sombre, notamment la fosse aux âmes.
Le quatrième. Que les autres, oui. Mais
quelque part, vous arrivez à saisir les pires turpitudes de l'âme humaine. Alors côtoyer des pédocriminels, ça va noircir encore votre écriture, vous pensez, pour les prochains polars ?
Bon, on verra le cinquième.
Vous êtes Christophe Molmy, et c'est une des dernières questions que je vais vous poser, un grand flic de PJ, à une époque où la PJ est en pleine mutation, peut-être en crise existentielle aussi, en tout cas certains le disent. Pour vous, qu'est-ce qui a le plus changé dans le métier de pégiste depuis que vous l'exercez ?
C'est pas une posture, moi je pense qu'il n'y a pas de grand flic avec des grandes affaires. J'ai des collègues qui sont des super professionnels, qui ont traversé des services où il s'est rien passé de notable, et on en a jamais entendu parler, ils ont fait super bien leur boulot, et puis il suffit que vous soyez là au bon moment et qu'il y ait une grosse affaire, on parle de vous. Donc il y a de grosses affaires surtout, et de grands services de police judiciaire, et qu'il faut servir au bon moment, voilà. Mais après, bon, la PJ, vous savez, la DCPJ a plus de 100 ans, la PPPJ, je pense pas loin, sont des services qui ont connu d'autres, d'autres révolutions. Donc la PJ frappe aux neuves, mais je pense qu'elle elle survivra.
Mais justement, vous nous disiez au début de ce podcast que la figure de Robert Broussard vous avait inspiré.
Ouais, beaucoup. Ouais.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes policiers qui nous écoutent ?
Je leur dirais que d'abord, c'est un beau métier. Et c'est surtout, alors je vais peut-être paraître un peu naïf, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pensais, que je pense toujours d'ailleurs. C'est un service public. Je rencontre toujours encore des jeunes qui rentrent dans ces métiers. Alors, c'est, j'imagine, commun aux militaires, aux pompiers, peut-être en quelque sorte aussi aux médecins. C'est un métier dans lequel on se met au service du public et on peut avoir l'occasion de sauver des vies. C'est quand même un beau métier quand on arrive à sauver des vies. Voilà, donc ça c'est le foncier. Après, on est aussi porté, surtout quand on est gamin, ça nous passe un peu, je vous rassure, avec l'âge, mais on est porté par tous les clichés quand on est gosse. Moi je voyais Broussard, mais je voyais aussi Belmondo. J'ai eu la chance de le rencontrer avant sa mort, mais je lui disais, mais c'est aussi un peu votre faute, moi, si j'ai fait ce métier, parce qu'à force de vouloir faire le con dans les films, on a envie de vous imiter. Non, je ne l'ai jamais fait ça, mais on est porté par toutes ces figures. Alors je ne sais pas s'il y en a moins aujourd'hui, mais en tout cas, je dirais aux jeunes que c'est un métier à la fois riche, on a une vraie utilité, où on se fait aussi des souvenirs, c'est un métier très humain, où on rencontre des personnalités, où on vit ensemble, voilà, où on partage beaucoup, et il y a des moments parfois difficiles, il y a parfois des inimitiés, voilà, mais c'est un métier très riche humainement. Quoi.
Donc vous diriez, rejoignez-nous.
Bah oui, bien sûr.
Merci, Christophe Molmy, d'avoir été notre invité.
Merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir écouté Flick Stories, votre podcast consacré à la culture flic. Pour ne rien manquer des prochains podcasts, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et sur l'application BFM TV. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou à laisser un commentaire. À bientôt !